Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture sans frontières. Andy Warhol, le pop art, la factory, New York, la drogue, la galère et l'art. Ces mots évoquent tout de suite une atmosphère très particulière, celle des 60s et des 70s. Acteurs, actrices, musiciens, libres penseurs, drag queens, mais aussi paumés, toxicaux et dépressifs, tout ce petit monde gravitait autour du pionnier du pop art qui, d'anonyme, en faisait des superstars, selon sa propre terminologie. Parmi ces superstars, l'actrice Viva, et dans son entourage direct, un Français, son mari, Michel Auder, précurseur du vidéo art. Ses œuvres, véritable anthologie de ces années folles et décadentes, sont à l'heure actuelle présentées au Centre d'art contemporain Dox, à Prague, dans le cadre d'une exposition intitulée « Chelsea Hotel, les fantômes de la bohème ». Avec Michel Auder, nous évoquerons donc dans cette émission cette période incroyable où tous les grands noms de l'art se sont côtoyés dans cet hôtel si spécial de Manhattan, mais également les débuts de la vidéo. Michel Auder vit depuis ces années-là à New York, mais il est né en France. En 2007, il a réalisé un film mémoire où, pour les besoins du montage, il s'est accordé une sorte de retour aux sources qui n'en était pas vraiment un.
Je suis donc allé à Gif-sur-Yvette pour faire semblant d'être intéressé, de revoir la maison où j'étais né, comme les gens font quand ils racontent l'histoire de leur vie. En fait, j'en avais rien à foutre, mais c'était toujours intéressant, même en même temps. Le film s'appelle The Feature. Comme les gens font des films, ils appellent ça des features à Hollywood. Et moi, comme je ne fais jamais de features, ça ne m'intéresse pas. Celui-là, je l'ai fait un peu comme un film, donc on l'appelait The Feature.
Alors, c'est un travail un peu titanesque quand même, parce que d'après ce que j'ai pu lire, The Feature, c'est 5000 heures de, ouais, de film sur 40 ans finalement que vous avez compacté en 2-3 heures.
Ça devrait pas être un feature, ça devrait être appelé un trailer. Mais j'étais pas assez vite d'esprit pour l'appeler le trailer. J'ai eu déjà un peu de mal pour dire aux gens que je voulais appeler le feature, mais en fait c'est un trailer tous mes films.
Un trailer de 3 heures.
Voilà, exactement.
Vous avez mis à la fois des éléments fictifs et réels. C'est un peu à la manière de l'autofiction en littérature que vous envisagez au film.
Très bonne question, très bonne réponse. C'est exactement ça. En fait, je pense que la manière dont les films sont faits maintenant avec, et moi que je fais depuis longtemps, mais avec les caméras sont devenues de plus en plus petites et l'outil lui-même devient plutôt, c'est plutôt près du roman que du film ou de la télévision. D'ailleurs, ça se voit parce que j'ai jamais été accepté vraiment par le film et par la télévision et c'est le monde de l'art qui a toujours été intéressé à mes travaux. Bien sûr, je suis un cinéaste à 100%, mais ça se rapproche plus de la littérature que du cinéma. C'est quelque chose de nouveau, en fait. C'est le 21e siècle, on ne sait même pas ce que c'est que le cinéma. Et ça, c'est juste né il y a 100 ans, et on croit qu'on connaît tout du cinéma, mais le cinéma, c'est un pouvoir et un projet dans quelques centaines d'années de maintenant qui sera beaucoup plus... qui sera vraiment différent, hein. Il n'y a pas de problème, c'est sûr. Le film 100 ans, c'est juste, on sait pas, on n'a même pas compris ce que c'était les images, parce que dès qu'on voit des images, on pense que c'est la réalité. On n'arrive pas à s'en sortir.
À l'époque, quand vous avez commencé à faire de la vidéo, c'était un peu les balbutiements de la caméra vidéo. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cet instrument-ci plutôt qu'un autre? Parce que je crois savoir qu'à l'époque, vous dessiniez plutôt à la photo.
Je faisais des films depuis longtemps. J'avais abandonné la photo dans les années 65, complètement même, pour faire que des films, et je pensais peut-être que j'allais faire des films plutôt comme Godard, des choses comme ça. J'étais plutôt intéressé à trouver de l'argent, mais j'étais assez déçu et frustré pour essayer de trouver des sommes d'argent pour pouvoir tourner ces films. Et donc j'ai découvert Warhol et d'autres filmmakers indépendants. Et ce qui m'intéressait après mes déboires pour pouvoir trouver de l'argent avec des idées et que je n'arrivais pas à trouver de l'argent, je voulais faire juste des films tout de suite. et ne pas songer à demander à d'autres personnes de la lumière pour le son, une équipe, ainsi de suite. Alors j'ai cherché un outil qui était beaucoup plus... Bon, on l'utilisait déjà un qui s'appelait Oricon, qui était une bobine de 16 mm de 30 minutes avec du son optique qui était autour. Et quand on développait la bobine, le son était déjà devenu... C'est pas un son de très bonne qualité, mais ça suffisait. Alors donc, je m'apprêtais à faire des films avec ça. Et puis quand la vidéo est arrivée en 1969, je faisais un film qui s'appelait Cléopâtre, qui avait été produit avec une chance quand j'avais reçu de l'argent. J'ai trouvé ça, et pour moi, je l'avais déjà inventé dans ma tête. C'est ce que je cherchais, une machine comme ça qui est arrivée. Alors tout de suite, c'était ma machine, c'était comme un crayon, on pouvait écrire tout de suite, on voyait des choses.
C'était la bonne rencontre au bon moment, finalement.
Oui, oui. Et ou plutôt la mauvaise, parce qu'en fait, ça m'a remis en arrière de 10 ans, parce que personne n'était intéressé par mes idées en vidéo, et les gens voulaient pas voir la vidéo à cette époque-là, parce que c'était en noir et blanc, c'était avec du grain, le son était pas très bon. En fait, l'esthétique avait juste changé en 70. Tout le monde avait commencé à voir une télévision en couleur. Pour eux, l'esthétique, c'était la couleur et une meilleure réception de l'image. Et en fait, la vidéo portable, c'était noir et blanc, une mauvaise réception de l'image qui continuait. Même avec des gens qui étaient assez intéressants, ils étaient assez déçus par le résultat.
Justement, vous avez filmé un peu donc votre entourage, un peu comme un carnet de bord, hein, un carnet intime ou un journal intime. Parce qu'à l'époque, vous aviez le sentiment que vous filmiez quelque chose qui allait devenir historique, puisque finalement, vous filmez ces personnes comme Andy Warhol et tous ces artistes qui étaient en fait autour d'Andy Warhol. Est-ce que vous aviez le sentiment que vous filmiez quelque chose d'historique à l'époque ou pas du tout? Finalement, c'était vous filmiez juste votre entourage comme ça.
Vous avez répondu à ma question? Pas du tout, je filmais juste mon entourage comme ça. J'avais aucune idée que... Et d'abord, je ne filme jamais avec l'idée. Les gens qui sont engagés dans mes films, je n'ai jamais l'idée parce qu'ils vont être quelqu'un plus tard ou comme ça. C'est juste des gens qui vivaient autour de moi. Et il se trouve que c'était Andy Warhol qui a une relation très privée avec ma première femme. Il faisait partie de la famille dans un sens. C'est vrai que Warhol était un peu plus, mais il n'est pas vraiment filmé. Toutes les choses que j'ai de Warhol sont d'une manière critique dans les films. Les gens ne le voient pas parce qu'ils ne regardent pas les films, mais s'ils regardaient mon film correctement, ils verraient que c'est pas un document parce que c'est Warhol. C'est absolument critique du début à la fin.
Et pourquoi avoir choisi justement de filmer votre entourage et non pas de filmer totalement la fiction, puisque vous disiez que vous vouliez filmer à l'époque, voilà, comme Godard le faisait, des films de fiction simplement.
Mais parce que la réalité c'est la fiction. Le monde et les gens autour de moi sont mes décors et les gens qui me parlent sont mes acteurs. Et que j'ai pas besoin d'engager des acteurs et de faire de la lumière pour faire une espèce d'idée, c'est le montage qui le fait. Si je veux quelqu'un qui pleure ou qui rit ou ainsi de suite, c'est pour ça que j'ai filmé tout le temps et j'ai toutes ces choses tragiques et très drôles et intéressantes et belles et pas belles. Et j'ai ça dans ma bibliothèque personnelle et je les ressors et je fais des films comme à Hollywood. J'ai même une voiture qui brûle ou un truc comme ça, si on veut.
C'est très shakespearien, hein, finalement. Hein. Le monde est une scène et nous sommes tous des acteurs dedans.
C'est toujours ce que j'ai pensé naturellement, en fait. C'est ce que j'ai vu tout de suite.
Vous arriviez à disparaître derrière la caméra, ou faire oublier aux gens que vous aviez une caméra? Ou est-ce qu'ils étaient intimidés?
Les gens que j'utilise sont des gens qui n'ont pas intimidé, parce que sinon je ne les filme pas, parce que ça ne m'intéresse pas de filmer des gens qui sont intimidés, qui me regardent l'air intimidés. Donc c'était des gens engagés qui comprenaient ce que je faisais ou s'ils ne comprenaient pas, qui acceptaient de dire quelque chose. Alors c'est toujours entre la fiction et la réalité parce qu'ils savent que la caméra est sur eux. Mais en même temps, ils ont un côté très naturel. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec à cette époque-là avec un groupe extraordinaire qui était le groupe d'Andy Warhol des années 60-70, entre 60 et 70, qui comprenait Viva, Louis Walden, Ondine, Taylor Mead, et tous ces acteurs étaient des acteurs libres qui souffraient un peu parce qu'ils n'étaient pas vraiment aidés par Warhol, qu'on ne leur donnait jamais d'argent, mais qui avaient un talent extraordinaire et qui était beaucoup plus intéressant qu'un acteur hollywoodien. Ils amenaient leurs propres idées sur un fond. S'ils venaient chez moi et qu'on s'en commence à raconter des histoires, Viva était la même chose. Soudainement, il y avait des discussions qui passaient, qui pouvaient parler de politique, de drogue, de tout. En même temps, tout arrivait ils avaient un don. Alors les trois premières années au Chelsea Hotel, ça, c'est basé un peu sur ce système. Alors de penser que Chelsea Hotel c'était un endroit où tout le monde était des stars, personne ne savait qu'on était des stars, tout pour commencer. Et en plus de ça, tout le monde était essayait de survivre au jour le jour, sérieusement.
Juste pour ceux qui ne sauraient pas, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'était le Chelsea Hotel exactement?
C'est un hôtel qui est assez particulier, surtout dans les années 70, où, par hasard je crois, mais aussi le patron de l'hôtel avait un don pour attirer les artistes et aussi oublier quelques mois de ne pas pouvoir payer ses loyers. Il fallait quand même lui plaire et qu'il soit intéressant. Tout le monde ne pouvait pas dire on est comme ça. Il y avait toujours une sélection. On ne sait pas comment ça marche, mais disons que moi je suis très bien rentré dedans à cause de ma femme qui était très connue, qui était appelée donc par Warhol Superstar, qui était un mot qui n'était pas donné à tout le monde, mais qui était inventé juste dans le système. C'était pour une sorte de nouveau Hollywood underground.
Le réalisateur Miloš Forman a passé 2 ans aussi au Chelsea Hotel. Est-ce que vous l'avez connu à l'époque?
Je rencontrais, bien sûr, oui. On rencontrait un peu tout le monde parce que l'image de Viva et la mienne était commençait à monter aussi, mais l'image de Viva était que tout le monde voulait la rencontrer, de toute façon, parce qu'elle était une personne extraordinaire. Hein. J'étais au centre de tout ça, en fait. Donc oui, j'ai rencontré Miloš. Je ne le connais pas bien, mais on se voyait, on buvait un coup ensemble.
Comment est-ce que vous expliquez ce bouillonnement créatif, intellectuel, finalement, de cette époque-là? Concentré comme ça
concentré, à un an. Moi, je ne suis pas un historien, ou je ne sais pas.
C'est plutôt votre ressenti.
Oui, c'était l'endroit où on pouvait aller, je le savais. D'autres, les gens le savaient. Et il y avait quand même, je suis sûr que tout le monde ne pouvait pas habiter là. Le patron du Chelsea Hotel pensait que j'étais un noble français.
Parce que vous étiez français?
Oui, il pensait que j'avais devenu d'une famille. Alors donc ça l'intéressait de savoir. Et puis ensuite, j'ai quand même fait un film qui était dans le New York Times, qui a vraiment. Alors ça a aussi impressionné. Alors, on avait notre photo dans le New York Times le dimanche en 1970. Viva et moi. C'est assez extraordinaire, c'est rare. Et je pense qu'il y avait une espèce de chimie et qui est arrivée.
Dernière question, je suppose que vous vous baladez toujours avec votre caméra. Est-ce que vous avez filmé quelque chose ici à Prague?
Ouais, j'ai filmé quelques lions sur en face de mon des lions sculptés en face de ma chambre de l'hôtel. Il y a une très belle coupole avec qui est assez détruite, avec des pigeons qui habitent dedans. J'ai fait un petit film sur ça. Je crois que j'ai filmé d'autres. Non, je crois que j'ai filmé tous les jours. Il neigeait un peu, il y a du soleil et tout. Alors c'est cette image qui est du 19e siècle, où je vois pas trop le monde moderne. On voit un peu la ville derrière avec la neige. Et cette coupole est rouge, extraordinairement très belle, très très extraordinaire.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet.